Saint André, apôtre. André veut dire beau, ou caution, ou viril. Dander, homme ou bien encore anthropos, homme, dana, au-dessus, et tropos, tourné, ce qui est la même chose que converti. Comme s'il eût été converti aux choses du ciel et élevé vers son créateur. Aussi est-il beau dans sa vie, caution d'une doctrine pleine de sagesse, homme fort dans son supplice et élevé en gloire. Son martyre fut écrit par les prêtres et les diacres d'Achaïe ou d'Asie qui en ont été les témoins oculaires. André et quelques autres disciples furent appelés à trois reprises différentes par le Seigneur. La première fois qu'il les appela à le connaître, ce fut un jour qu'André, avec un autre disciple, ouït dire par Jean son maître, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde. » Et tout aussitôt, avec cet autre disciple, il vint et vit où demeurait Jésus, et ils passèrent ce jour auprès de lui. Et André, ayant rencontré Simon, son frère, il l'amena à Jésus. Le lendemain, ils retournèrent à leur métier de pêcheur. Plus tard, il les appela pour la seconde fois à vivre avec lui. Ce fut le jour où la foule se pressait sur les pas de Jésus auprès du lac de Génézareth, aussi appelé mer de Galilée. Le Sauveur entra dans la barque de Simon et d'André, et après une pêche extraordinaire, il appela Jacques et Jean qui étaient dans une autre barque. Ils le suivirent et revinrent ensuite chez eux. Jésus les appela la troisième et dernière fois pour être ses disciples lorsque, se promenant sur le bord de cette même mer où ils se livraient à la pêche, « Venez, leur dit-il, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ils quittèrent tout à l'instant pour le suivre toujours et ne plus retourner en leur maison. Toutefois, il appela André et d'autres de ses disciples à l'apostolat, selon que le rapporte saint Marc, chapitre 3. Il appela à lui ceux qu'il voulut lui-même, et ils vinrent à lui au nombre de 12. Après l'ascension du Seigneur et la séparation des apôtres, André prêcha en Scythie et Matthieu en Myrmidonie. Les habitants de ce dernier pays refusèrent d'écouter Matthieu, lui arrachèrent les yeux, le mirent dans les fers avec l'intention de le tuer quelques jours après. Sur ces entrefaites, l'ange du Seigneur apparut à saint André et lui ordonna d'aller en Myrmidonie trouver saint Matthieu. Sur sa réponse, qu'il n'en connaissait pas la route, il lui fut ordonné d'aller au bord de la mer et de monter sur le premier navire qu'il trouverait. Il exécuta tout de suite les ordres qu'il recevait, et sous la conduite d'un ange, il vint, à l'aide d'un vent favorable, à la ville qui lui avait été désignée, trouva au port ouverte la prison de saint Matthieu, et se mit à pleurer beaucoup et à prier en le voyant. Alors le Seigneur rendit à Matthieu le bon usage de ses deux yeux, dont l'avait privé la malice des pécheurs. Matthieu s'en alla ensuite et vint à Antioche. André resta dans la ville dont les habitants, irrités de l'évasion de Matthieu, saisirent André et le traînèrent sur les places après lui avoir lié les mains. Et comme son sang coulait, il pria pour eux et par sa prière les convertit à Jésus-Christ. De là, il partit pour l'Achaïe. Ce qu'on rapporte ici de la délivrance de Matthieu et de la guérison de ses deux yeux, je ne le crois pas digne de foi, car ce serait peu d'honneur porté à un si grand évangéliste de croire qu'il n'a pu obtenir pour soi-même ce que André obtint si facilement. Un jeune noble s'étant attaché à l'apôtre, malgré ses parents, ceux-ci mirent le feu à une maison où leur fils demeurait avec André. Comme la flamme s'élevait déjà fort haut, le jeune homme prit un vase, en répandit l'eau sur le feu qui s'éteignit aussitôt. « Notre fils, dirent alors ses parents, est déjà un grand magicien. Et pendant qu'il voulait monter au moyen des échelles, Dieu les aveugla au point qu'ils ne les voyaient même pas. Alors quelqu'un s'écria, « À quoi vous sert de vous consumer en vain efforts ? Dieu combat pour eux, et vous ne le voyez point ? Cessez donc de craindre que la colère de Dieu ne descende sur vous. » Or beaucoup de témoins de ce fait crurent au Seigneur. Quant aux parents, ils moururent et furent enterrés 50 jours après. Une femme mariée à un assassin ne pouvait accoucher. « Allez, dit-elle à sa sœur, invoquez pour moi Diane, notre déesse. » Le diable dit à celle qui l'invoquait, « Pourquoi t'adresser à moi qui ne saurais te secourir ? Va plutôt trouver l'apôtre André qui pourra aider ta sœur. » Elle y alla et mena l'apôtre chez sa sœur en danger de périr. Il lui dit, « Il est juste que tu souffres, car tu es mal mariée. Tu as conçu dans le mal et tu as consulté les démons. Cependant, repens-toi, crois en Jésus-Christ et accouche. » Elle crut et accoucha d'un avorton, puis sa douleur cessa. Un vieillard nommé Nicolas alla trouver l'apôtre et lui dit, « Seigneur, depuis 70 ans, je vis esclave de passions infâmes. J'ai cependant reçu l'Évangile et ai prié pour que Dieu m'accordât la continence. Mais accoutumé à ce péché et séduit par la concupiscence, je suis retourné à mes désordres habituels. Un jour que, brûlant de mauvais désirs, j'avais oublié que je portais l'Évangile sur moi, j'entrai dans une maison de débauche, et la courtisane me dit aussitôt, « Sors, vieillard, sors, car tu es un ange de Dieu. Ne me touche pas et ne t'avise pas d'approcher, car je vois sur toi des prodiges. » Effrayé des paroles de cette femme, je me suis rappelé que j'avais apporté sur moi l'Évangile. « Maintenant donc, saint de Dieu, obtenez mon salut par vos saintes prières. » En l'entendant, le bienheureux André se mit à pleurer, et depuis Thiers jusqu'à Nonne, il pria. Se levant de sa prière, il ne voulut point manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant de savoir si le Seigneur aura pitié de ce vieillard. » Après 5 jours de jeûne, une voix se fit entendre à André et dit, « André, tu obtiens ce que tu sollicites pour ce vieillard, mais de même que tu t'es macéré par le jeûne, aussi faut-il que pour être sauvé, lui aussi s'affaiblisse par les jeûnes. » C'est ce que fut les vieillards en jeûnant pendant 6 mois au pain et à l'eau. Après quoi, plein de bonnes œuvres, il reposa en paix. Et une voix dit à André, « Par ta prière, j'ai recouvré Nicolas que j'avais perdu. » Un jeune chrétien confia ce qui suit sous le plus grand secret à saint André. « Ma mère, éblouie de ma beauté, me tenta pour une œuvre illicite. Comme je n'y consentais pas, elle allait trouver le juge dans l'intention de faire poser sur moi l'énormité d'un tel crime, mais priait pour moi de peur que je ne meure injustement, car lors de l'accusation, je préférerais me taire et perdre la vie plutôt que déshonorer ainsi ma mère. » Le jeune homme est donc mandé en justice. André lui suit. La mère accuse positivement son fils d'avoir voulu la violer. Interrogé plusieurs fois si la chose s'était ainsi passée, le jeune homme ne répondit mot. André dit alors à cette mère, « Oh, la plus cruelle des femmes, de vouloir la perte de son fils unique pour satisfaire ta débauche !» La mère dit donc au juge, « Seigneur, voilà l'homme auquel s'est attaché mon fils après qu'il eut tenté de consommer son crime sans pouvoir le commettre. » Alors le juge, irrité, condamna le jeune homme à être mis en un sac enduit de poix et de bitume pour ensuite jeter dans la rivière, et il ordonna de garder en prison André jusqu'à ce qu'il eût trouvé un supplice pour le faire périr. Mais à la prière d'André, un tonnerre horrible épouvanta les assistants et un tremblement de terre les renversa tous en même temps que la femme, frappée de la foudre, était desséchée. Tous conjurèrent alors l'apôtre de ne pas les perdre. Il pria pour eux et le calme se fit. Le juge crut ainsi que toute sa maison. Comme l'apôtre était à Nicée, les habitants lui dirent que sur le chemin qui menait à la ville se trouvaient 7 démons qui tuaient les passants. L'apôtre les fit venir sous la forme de chiens devant le peuple et leur commanda d'aller où ils ne pourraient nuire à personne. Aussitôt ils disparurent. À cette vue, ces hommes reçurent la foi de Jésus-Christ. En arrivant à la porte d'une autre ville, l'apôtre rencontra le convoi d'un jeune homme qu'on portait en terre. Et comme il s'informait de l'accident, il lui fut dit que 7 chiens étaient venus et l'avaient fait mourir dans son lit. André se mit à pleurer et dit « Je sais bien, Seigneur, que c'est le fait des démons que j'ai chassés de Nicée. » Et s'adressant au père, « Que me donneras-tu ? » lui demanda-t-il « si je ressuscite ton fils. » « C'est tout ce que je possédais de plus cher au monde, » répondit le père. « Je te le donnerai. » L'apôtre fit une prière et ressuscita l'enfant qui s'attacha à lui. Un jour, 40 hommes vinrent par mer trouver l'apôtre afin de recevoir de lui la doctrine de la foi. Mais le diable excita une tempête qui les engloutit tous. Leurs corps, ayant été rejetés sur le rivage, furent portés à l'apôtre et tout aussitôt ressuscités. Ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. De là vient qu'on lit dans une des hymnes de son office, « Il rendit la vie 40 hommes que les flots avaient engloutis. » Maître Jean Bellette dit en traitant de la fête de Saint-André qu'il avait le teint brun, la barbe épaisse et une petite taille. Or, Saint-André resta en Achaïe, y fonda de nombreuses églises et convertit beaucoup de monde à la foi du Christ. Il instruisit même la femme du proconsul Égée et la régénéra dans les eaux sacrées du baptême. À cette nouvelle, Égée vient à Patras pour contraindre les chrétiens à sacrifier aux idoles. André alla à sa rencontre et lui dit « Il fallait que toi, qui as l'honneur d'être ici-bas le juge des hommes, tu connisses et ensuite tu honorasses ton juge qui est dans le ciel, après avoir renoncé en ton cœur au faux Dieu. » Égée lui répliqua « C'est toi qui es André, tu enseignes les dogmes de cette secte superstitieuse que les empereurs romains viennent de prescrire d'exterminer. » Les empereurs romains, dit André, n'ont pas encore appris que le Fils de Dieu, en venant sur la terre, a enseigné que les idoles sont des démons qui apprennent à offenser Dieu, en sorte qu'offensé par les hommes, il détourne d'eux son visage, qu'irrité contre eux, il ne les exauce point, et qu'en ne les exauçant pas, ils sont les esclaves et le jouet du diable, jusqu'à ce que, dépouillés de tout en sortant de leur corps, ils n'emportent avec eux rien d'autre que leur péché. Égée, votre Jésus qui prêchait ses sottises a été attaché au gibet de la croix ? André repartit, c'est pour nous racheter et non pour des crimes qu'il a bien voulu souffrir le supplice de la croix. Égée, il a été livré par son disciple, pris par les Juifs et crucifié par les soldats. Comment donc peux-tu dire qu'il a souffert de plein gré le supplice de la croix ? Alors André démontra par 5 raisons que Jésus-Christ avait souffert parce qu'il l'avait voulu. Premièrement, il a prévu et prédit sa passion à ses disciples lorsqu'il dit « Voici que nous allons à Jérusalem », etc. Deuxièmement, quand Saint-Pierre voulut l'en détourner, il s'indigna fortement et lui dit « « Va-t'en derrière moi, Satan !» etc. Troisièmement, il a clairement annoncé qu'il avait le pouvoir de souffrir et de ressusciter tout à la fois, lorsqu'il dit « J'ai la puissance de quitter la vie et de la reprendre. » Quatrièmement, il a connu d'avance celui qui le trahissait, lorsqu'il lui donna du pain trempé, et cependant, il ne se garda pas de lui. Cinquièmement, il choisit l'endroit où il savait que devait venir le traître. Lui-même assura avoir été témoin de chacun de ses faits. Il ajouta que c'était un grand mystère que celui de la croix. Et j'ai répondu, on ne saurait appeler mystère ce qui fut un supplice. Cependant, si tu n'obtentères pas à mes ordres, je te ferai passer par l'épreuve du même mystère. » André. « Si j'étais épouvanté du supplice de la croix, je n'en proclamerais point la gloire. Or, je veux t'apprendre ce mystère de la croix. Peut-être qu'en le connaissant, tu y croiras, tu l'adoreras et tu seras sauvé. » Alors il commença à lui dévoiler le mystère de la rédemption et lui en prouva par 5 arguments la convenance et la nécessité. Le premier argument est que le premier homme, ayant donné naissance à la mort par le bois, il était convenable que le second homme détruisît la mort en souffrant sur le bois. Le second, que le prévaricateur, ayant été formé d'une terre immaculée, il était juste que le réconciliateur naquît d'une vierge immaculée. Le troisième, que Adam, ayant étendu la main avec intempérance vers le fruit défendu, il seyait que le second Adam étendit sur la croix ses mains immaculées. Le quatrième, que Adam, ayant goûté de l'arbre défendu un fruit agréable, il était convenable que le Christ, lorsqu'il fut abreuvé de fiel, détruisit le contraire par son contraire. Le cinquième est que, pour nous conférer son immortalité, il importait que le Christ prît avec lui notre mortalité. Car si Dieu ne s'était fait mortel, l'homme ne fut pas devenu immortel. Alors, et j'ai dit, « Va compter au tien ses rêveries, et obéis-moi en sacrifiant au Dieu Tout-Puissant. » Chaque jour, répondit André, j'offre au Dieu Tout-Puissant l'agneau sans tache, et quand il a été mangé par tout le peuple, cet agneau reste vivant et entier. Et j'ai demandé comment cela pouvait-il se faire. André lui répondit de se mettre au nombre des disciples. Et j'ai répliqua, avec des tourments, je saurais bien te faire expliquer la chose. Et tout en colère, il le fit enfermer dans une prison. Le matin étant venu, il s'assit sur son tribunal, et de nouveau il l'exhorta à sacrifier aux idoles. « Si tu ne m'obéis pas, lui dit-il, je te ferai suspendre à cette croix que tu as glorifiée. » Et comme il le menaçait de nombreux tourments, André répondit, « Invente tout ce qui te paraîtra de plus cruel en fait de supplice. Plus je serai constant à souffrir dans les tourments pour le nom de mon roi, plus je lui serai agréable. » Alors Égée le fit fouetter par 20 hommes et le fit lier ensuite à une croix par les mains et par les pieds afin qu'il souffrît plus longtemps. Et comme il était conduit à la croix, il se fit un grand concours de peuple qui disait « Il est innocent et condamné sans preuve à verser son sang. » Cependant, l'apôtre pria cette foule de ne point s'opposer à son martyre. Et quand André aperçut la croix de loin, il la salua en disant « Salut, ô croix, consacrée par le sang de Jésus-Christ et décorée par chacun de ses membres comme avec des pierres précieuses. Avant que le Seigneur eût été élevé sur toi, tu étais un sujet d'effroi pour la terre. Maintenant, en procurant l'amour du ciel, tu es l'objet de tous les désirs. Plein de sincérité et de joie, je viens à toi afin de te procurer la joie de recevoir en moi un disciple de celui qui a été pendu sur toi. En effet, toujours je t'ai aimé et ai désiré t'embrasser. Ô bonne croix qui a reçu gloire et beauté des membres du Seigneur, toi que j'ai longtemps désiré, que j'ai aimé avec sollicitude, que j'ai recherché sans relâche et qui enfin est préparé à mon âme désireuse, reçois-moi du milieu des hommes et me rends à mon maître afin qu'il me reçoive par toi, lui qui par toi m'a racheté. » En disant ces mots, il se dépouilla de ses vêtements qu'il donna aux bourreaux. Alors ceux-ci le suspendirent à la croix, comme il leur avait été prescrit. Pendant 2 jours qu'il y vécut, il prêcha à 20 000 hommes qui l'entouraient. Cette foule menaçait Égée de le faire mourir, en disant qu'un saint doux et pieux ne devait pas ainsi périr. Égée vint pour le délivrer. À sa vue, André lui dit, « Pourquoi viens-tu vers nous? Si c'est pour demander pardon, tu l'obtiendras. Mais si c'est pour me détacher, sache que je ne descendrai pas vivant de la croix. Déjà, en effet, je vois mon roi qui m'attend. » et comme on voulait le délier, on ne put y parvenir parce que les bras de ceux qui essayaient de le faire devenaient paralysés. Pour André, comme il voyait que le peuple le voulait délivrer, il fit cette prière sur la croix comme la rapporte saint Augustin en son livre de pénitence. « Ne permettez pas, Seigneur, que je descende vivant. Il est temps que vous confiez mon corps à la terre, car tant que je l'ai porté, tant j'ai veillé à sa garde, j'ai travaillé à vouloir être délivré de ce soin et à être dépouillé de ce très épais vêtement. Je sais combien je l'ai trouvé lourd à porter, redoutable à vaincre, paresseux à enflammer et prompt à faiblir. Vous savez, Seigneur, combien il était porté à m'arracher aux pures contemplations, combien il s'efforçait de me tirer du sommeil de votre charmant repos. Toute et quante fois il me fit souffrir de douleur, chaque fois que je l'ai pu, Père des bonheurs, j'ai résisté en combattant et j'ai vaincu à votre aide. C'est à vous, juste et pieux rémunérateur, que je demande de ne plus me confier à ce corps. Mais je vous rends ce dépôt. Confiez-le à un autre et ne m'opposez plus par lui d'obstacles. Qu'il soit conservé et rendu à la résurrection, afin que vous retiriez honneur de ses œuvres. Confiez-le à la terre, afin de ne plus veiller, afin qu'il ne m'empêche pas de tendre avec ardeur et librement vers vous, qui êtes la source d'une vie de joie intéressante. Saint Augustin, De Vera et Falsa, Peni. Après ces paroles, une lumière éclatante venue du ciel l'entoura pendant une demi-heure, en sorte que personne ne pouvait fixer sur lui les yeux. Et cette lumière disparaissait, il rendit en même temps l'esprit. Maximilia, l'épouse d'Égée, prit le corps du saint apôtre et l'ensevelit avec honneur. Quant à Égée, avant d'être rentré dans sa maison, il fut saisi par le démon, et à la vue de tous, il expira sur le chemin. On dit que du tombeau de saint André découle une manne semblable à de la farine et une huile odoriforme. Les habitants du pays en tirent un présage pour la récolte, car ce qui coule est en petite quantité. La récolte sera peu considérable. S'il en coule beaucoup, elle sera abondante. Peut-être qu'il en a été ainsi autrefois. Mais aujourd'hui, on prétend que son corps a été transporté à Constantinople. Un évêque qui menait une vie sainte avait une vénération particulière pour saint André, en sorte qu'à chacun de ses ouvrages, il mettait en entête à l'honneur de Dieu et de saint André. Or, jaloux de la sainteté de ce personnage, l'antique ennemi, pour le séduire après avoir employé toutes sortes de ruses, prit la forme d'une femme merveilleusement belle. Elle vint au palais de l'évêque sous prétexte de vouloir se confesser à lui. Sur l'ordre de l'évêque de l'adresser à son pénitencier, qui avait tous ses pouvoirs, elle répondit qu'elle ne révélera à nul autre qu'à lui les secrets de sa conscience. Le prélat, touché, la fait rentrer. « Je vous en conjure, Seigneur, lui dit-elle, ayez pitié de moi, car jeune encore, ainsi que vous le voyez, élevé dans les délices dès mon enfance, issu même de race royale, je suis venu seul ici sous l'habit des pèlerins. Le roi, mon père, prince très puissant, voulant me marier à un grand personnage, je lui ai répondu que j'avais en horreur le lien du mariage, puisque j'ai consacré ma virginité pour toujours à Jésus-Christ, et qu'en conséquent, je ne pourrais jamais consentir à la perdre. Pressé d'obéir à ses ordres ou de subir sur la terre différents supplices, je pris secrètement la fuite, préférant m'exiler que de violer la foi jurée à mon époux. La renommée de votre sainteté étant parvenue à mes oreilles, je me suis réfugié sous les ailes de votre protection, dans l'espoir de trouver auprès de vous un lieu de repos où je puisse jouir en secret des douceurs de la contemplation, me sauver des naufrages de la vie présente et fuir le bruit et les agitations du monde. Plein d'admiration pour la noblesse de sa race, la beauté de sa personne, sa grande ferveur et l'élégance remarquable de ses paroles, l'évêque lui répondit avec bonté et douceur : « Soyez tranquille, ma fille, ne craignez point. car celui pour l'amour duquel vous avez méprisé avec tant de courage, et vous-même, et vos parents, et vos biens, vous accordera pour ce sacrifice le comble de la grâce en cette vie et la plénitude de la gloire en l'autre. Aussi, moi, qui suis son serviteur, je m'offre à vous avec ce qui m'appartient. Choisissez l'appartement qu'il vous plaira, et je veux qu'aujourd'hui vous mangiez avec moi. Veuillez, ah, veuillez, dit-elle, mon père, ne pas exiger cela de moi, de peur d'éveiller quelques mauvais soupçons et de porter quelque atteinte à l'éclat de votre réputation. Nous serons plusieurs, lui répondit l'évêque, nous ne serons pas seuls, et ainsi il n'y aura pas lieu de fournir en quoi que ce soit l'apparence à mauvais soupçons. Les convives se mirent à table. L'évêque se plaça en face de la dame et les autres de l'un et de l'autre côté. L'évêque eut beaucoup d'attention pour cette femme. Il ne cessa de la regarder et d'en admirer la beauté. Pendant qu'il a les yeux fixés ainsi, son âme est atteinte et tandis qu'il ne cesse de la regarder, l'antique ennemi lance contre son cœur une flèche acérée. Le diable, qui tenait compte de tout, se mit à augmenter de plus en plus sa beauté. Déjà l'évêque était sur le point de donner son consentement à la tentation de combattre avec cette personne une action criminelle dès que la possibilité s'en présenterait, quand tout à coup un pèlerin vint heurter à la porte avec violence, demandant à grands cris qu'on lui ouvre. Comme on s'y refusait et que le pèlerin devenait importun par ses clameurs et ses coups répétés, l'évêque demande à la femme si elle voulait recevoir ce pèlerin. « Qu'on lui propose, dit-elle, quelques questions difficiles. S'il sait la résoudre, qu'on l'introduise. S'il ne peut pas, qu'on l'éloigne comme un ignorant et comme une personne indigne de paraître devant l'évêque. » On applaudit à la proposition et l'on se demande qui sera capable de poser la question. Et comme on ne trouvait personne, « Quel autre, madame, reprit l'évêque, peut mieux poser la question que vous ?» qui l'emportait sur nous autres en éloquence et dont la sagesse brille au-dessus de la nôtre à tous. Proposez donc vous-même une question. On lui demande, dit-elle, ce que Dieu a fait de plus merveilleux dans une petite chose. Le pèlerin auquel un messager porta la question répondit. C'est la variété et l'excellence du visage. Parmi tant d'hommes qui ont existé depuis le commencement du monde, et qui existeront dans l'avenir, on ne saurait rencontrer deux dont les visages soient semblables en tout point. Et cependant, dans une si petite figure, Dieu a placé tous les sens du corps. En attendant cette réponse, on s'écria avec admiration. C'est vraiment une excellente solution à la demande. Alors la dame dit, on lui en propose une autre, plus difficile, qui mette sa science à meilleure épreuve. On lui demande où la terre est la plus haute que le ciel tout entier. Le pèlerin interrogé répondit « Dans le ciel empyré où réside le corps de Jésus-Christ. Le corps du Christ, en effet, qui est plus élevé que tout le ciel, est formé de notre chair. Or notre chair est une portion de la substance de la terre. Comme donc le corps du Christ est au-dessus de tous les cieux, et qu'il tire son origine de notre chair, que notre chair est formée de la terre, il est donc constant que là où le corps de Jésus-Christ réside, là certainement la terre est plus élevée que le ciel. » L'envoyé rapporte la réponse du pèlerin, et tous d'approuver cette solution merveilleuse et d'en louer hautement la sagesse. Alors la femme dit encore, on lui pose de nouveau une troisième question très grave, compliquée, difficile à résoudre, obscure, afin que pour la troisième fois, il soit prouvé qu'il est digne à juste titre d'être admis à la table de l'évêque. Demandez-lui quelle distance il y a de la terre au ciel. Le pèlerin répondit à l'envoyé qui lui portait la question. Allez le demander à celui-là même qui a posé la demande. Il le sait certainement. Et il pourra répondre mieux que je ne le ferai, car lui-même a mesuré cette distance quand du ciel il est tombé dans l'abîme. Pour moi, je ne suis jamais tombé du ciel et n'ai jamais mesuré cet espace. car ce n'est pas une femme, mais le diable qui s'est caché sous la ressemblance d'une femme. » À ces paroles, le messager fut pâmé et répéta devant tous les convives ce qu'il avait entendu. Tandis que l'étonnement et la stupeur ont saisi les convives, le vieil ennemi a disparu. L'évêque, rentrant en lui-même, se reprochait amèrement sa conduite et demandait avec lamentation le pardon de la faute qu'il avait commise. Il envoyait aussitôt pour qu'on introduisît le pèlerin, mais on ne le trouva plus. L'évêque convoqua le peuple, lui exposa de point en point ce qui s'était passé et commanda des jeûnes et des prières pour que le Seigneur daignât révéler quel était ce pèlerin qu'il avait sauvé de si grands périls. Et cette nuit-là même, il fut révélé à l'évêque que c'était Saint André qui, pour le délivrer, avait pris l'extérieur d'un pèlerin. L'évêque redoubla de dévotion envers le saint apôtre et il ne cessa de donner des preuves de sa vénération pour lui. Le prévôt d'une ville s'était emparé d'un champ de saint André et par les prières de l'évêque, il en fut puni de très fortes fièvres. Il alla trouver le prélat, le conjurant d'intercéder en sa faveur et lui promit de restituer le champ. Mais après sa guérison obtenue par l'intercession du pontife, il reprit une seconde fois la terre. Alors l'évêque se mit en prière et brisa toutes les lampes de l'église en disant « Qu'on n'allume plus ces lumières jusqu'à ce que le Seigneur se venge lui-même de son ennemi et que l'église recouvre ce qu'elle a perdu. » Et voilà que le prévôt eut encore de fortes fièvres. Il envoya alors demander à l'évêque de prier pour lui, l'assurant qu'il rendrait son champ et en surplus un autre de la même valeur. Comme l'évêque lui faisait répondre toujours « J'ai déjà prié et Dieu m'a exaucé », le prévôt se fit porter chez le prélat et le força d'entrer dans l'église pour prier. À l'instant où l'évêque entre dans l'église, le prévôt meurt subitement et le champ est restitué à l'église.